Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François-Pierre Nizeri.
Chers auditeurs de Canal Académie, bonjour et bienvenue dans l'émission Au fil des pages pour parler à nouveau, je dis bien à nouveau, d'une revue qui, vous l'avez compris, me tient à cœur, puisque c'est la deuxième fois que je vous propose de la feuilleter ensemble. Avec une attention spéciale, cette fois sur son numéro 5, et ce pour trois raisons qui, je l'espère, sont de bonnes raisons. Et j'ajoute encore une quatrième raison, que je mentionne dès le départ, c'est qu'on y parle aussi de Canal Académie. Bonne raison, ça. La première raison essentielle, c'est que ce numéro 5 inaugure une nouvelle naissance pour Rive Neuf Continent, dont la parution s'était interrompue pendant, si je me souviens bien, un peu plus d'un an. En fait, juste le temps qu'il faut pour bien renaître. Alors Alain Sancerny, son directeur de la publication, que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir dans cette émission, et dont je n'ai donc pas à rappeler le riche parcours professionnel et les errances et itinérances au service de la culture partout dans le monde, et notamment en Afrique. Alain Sancerny donc est à nouveau avec nous pour en parler. Alain Sancerny, bonjour.
Bonjour François-Pierre Nizeri.
Ce numéro 5 de Rive Neuf Continent, outre qu'il renaît, a ceci de particulier, et c'est ma deuxième bonne raison de lui consacrer une nouvelle émission, que son thème central est de ceux qui provoquent une certaine jubilation chez les auteurs et sans doute une certaine curiosité chez les lecteurs. L'insolence. Quelle belle façon de renaître. Et que dire si en plus, troisième bonne raison d'en parler, ce thème de l'insolence permet de cristalliser l'attention sur un pays voisin de la France, notre chère Belgique, si proche de nous par bien des aspects, dont la langue française, qui est et qui reste l'une des trois langues nationales de ce pays, mais aussi si différent par bien d'autres aspects, dont le moindre n'est pas une mentalité qui, de Bruegel à Magritte, a fait de ce pays la vraie patrie du surréalisme. Alors avant de parler de l'insolence et de la Belgique, et notamment de ce cahier central du numéro 5 de Rive Neuf Continent qui est consacré à ce que vous appelez la riche Belgique, dites-nous en quelques mots, Alain Sancerny, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle naissance de Rive Neuf Continent? Vous aimez évoquer à ce propos une forme de résurrection, un mot qu'un vieux catho comme moi n'utilise qu'avec une certaine prudence. Et puis au fond, la résurrection suppose qu'on soit mort avant. Alors, question simple, la revue Rive Neuf Continent était-elle vraiment morte avant de ressusciter? Et puis une petite question subsidiaire, derrière une revue, il y a une maison d'édition, en principe, et en l'occurrence, Rive Neuve. Alors cette renaissance, est-ce que c'est aussi celle de Rive Neuve, la maison d'édition? Je vous en prie, Alain Sancerny.
Pour d'abord sur la résurrection, le christianisme n'a pas le monopole dans les religions de la résurrection, bien sûr. Mais ce n'est pas d'un point de vue théologique que la question s'est posée à Rive Neuve Continent. C'est une rumeur qui court dans le milieu de l'édition où on dit, voilà, au bout de 4 numéros, une revue continue d'exister ou meurt. Donc c'est une mort virtuelle, une sorte de puberté des revues qui fait, c'est une petite mort des revues, et qu'on a dû affronter ce passage et qu'on l'a affronté d'une façon réelle, c'est-à-dire qu'au bout du 4e numéro, on s'était épuisé, on a eu des difficultés à relancer le 5e numéro, ça a pris du temps, ça a pris 1 an et demi, et nous avons côtoyé la fin de la revue. Alors pas dans l'intention, mais dans la réalité, on pouvait se demander, en tout cas les lecteurs ou les abonnés pouvaient se demander, ou les amis de Rive Neuf Continent dont vous êtes, auraient pu se demander, mais que devient-il de cette revue? Et donc nous avons un peu, c'est plutôt dans le sens où la revue s'est éteinte un petit peu, C'est une extinction de la revue, une extinction provisoire. C'est une chrysalide, c'est René en papillon, je l'espère du moins. Voilà le sens dans lequel j'ai utilisé. Alors j'ai utilisé le mot évidemment résurrection par rapport à l'insolence, puisque tout de même, la religion chrétienne repose sur cette insolence qu'est la résurrection et qui a contribué à son succès et sur lequel saint Paul a tout de même bâti toute la thématique du ressuscité. Donc voilà, c'est à la fois une transformation. Donc, et je crois qu'effectivement, la revue a donné maintenant d'une façon plus solide, grâce à la maison d'édition que vous avez mentionnée, à savoir les éditions Rive-Neuve, qui ont été reprises par un éditeur parisien. Et là, il ne s'agit pas de mort et de résurrection, mais il s'agit d'une maison d'édition que nous avions montée sur lequel qui s'appuyait la revue, mais qui était restée un peu lettre morte, qui était un peu restée à l'abandon. Là, c'est une naissance. Il y a la résurrection de la revue, grâce à la maison d'édition, et la naissance d'une vraie maison d'édition avec de vrais professionnels à Paris.
Très bien. Alors, venons-en à l'insolence. Alain Sancerny, qu'est-ce que c'est l'insolence ? Est-ce que c'est une provocation ou est-ce que c'est un geste naturel ? Dans votre éditorial du numéro 5 de Rive-Neuf Continent, vous dites « Le soleil qui se lève ignore son insolence ». Elle ne relève que de l'être vu. Ce n'est qu'un nuage de lumière qui passe et qui ne sèche pas. L'atome d'un instant. Nul n'est propriétaire de son insolence. Alors, est-ce que cela veut dire que si l'insolence est voulue, elle devient, alors là je vous cite à nouveau, arrogance, irrespect, délire, farceux et... Dernière petite question sous-jacente. Est-ce que nous sommes finalement, vous et moi, puisque nous écrivons, et bien d'autres avec nous, est-ce que nous sommes insolents parce que nous écrivons ?
Je dirais d'abord ce que l'insolence, selon moi, n'est pas. Elle n'est précisément pas l'impertinence ou l'effronterie ou l'humour. Ce sont des choses qui existent, qui ont leur valeur, mais qui ont une intentionnalité, qui sont totalement calculées et intentionnelles, qui ont des cibles. Alors que l'insolence qui existe comme phénomène littéraire, comme phénomène artistique, c'est quelque chose, et je le dis, la jeunesse est insolente, la beauté est insolente, la chance est insolente. Il y a une insolence naturelle qui n'est pas évidemment voulue, mais c'est une façon de voir les choses. Et l'insolence suppose évidemment un contexte, c'est-à-dire que le même livre ou la même création littéraire sera, selon l'époque et selon le contexte où il apparaît, insolent ou pas insolent, parce que ça relève effectivement de la lecture et de la façon dont est vue une chose. Madame Bovary est un livre insolent, est passé pour un livre insolent, il le serait certainement moins aujourd'hui. J'évoque aussi le sourire de la Joconde qui fait, ou d'une femme banale, certainement banale, qui fait une énigme et qui laisse sans réponse. Alors je crois que l'insolence dépend de choses. D'une part, du contexte dans lequel l'acte d'insolence apparaît ou l'effet d'insolence apparaît, et d'autre part, je parle ici de l'insolence créatrice, pas de l'insolence de la nature, du coucher du soleil, bon, ce sont des images, mais de l'insolence du créateur ou de l'œuvre créée. C'est le contexte de l'œuvre elle-même. Quand Newton reçoit sa pomme sur la tête, sa découverte est une sorte d'insolence. Mais il y a tout le travail scientifique, toute la recherche scientifique, tout le travail, ce lit fait au hasard. C'est toute cette création attentive, besogneuse autour du hasard qui fait que quand la pomme tombe, le coup de génie en même temps éclate parce qu'il y a le terrain est préparé. Quand Proust écrit cette phrase insolente « Longtemps je me suis couché de bonheur », c'est une phrase qui, hors du contexte de la création littéraire, est banale. Elle est insolente parce que dans le contexte général de l'œuvre de la recherche du temps perdu, voilà un peu le... Donc je dis que si l'insolence... Mais c'est un point de vue personnel. Il y a des textes dans la revue qui n'ont pas tout à fait le même point de vue. Si l'insolence devient intentionnelle, elle sèche et elle se fige. C'est-à-dire, elle disparaît, elle meurt. Une fois qu'on la cite, elle relève plutôt de l'euphémisme et comme je le pense, de l'être vu.
Très bien.
En ce qui concerne l'écriture, je pense, je pense que l'écriture, effectivement, est une forme d'insolence.
J'espère bien.
Oui, parce qu'elle montre elle montre le monde d'une certaine façon qui n'est pas la façon ordinaire, la façon banale. Elle coupe le monde d'une façon différente. Il y a un regard sur le monde, un être vu du monde qui est différent et qui fait que l'insolence créatrice ne vieillit pas grâce à l'écriture. Le monde, en quelque sorte, ne vieillit pas. La Joconde ne vieillit pas grâce à son simple sourire. Je crois que c'est l'un des rôles, je le dis aussi à la fin, si l'écriture n'est pas une façon de dérégler la mort, c'est-à-dire surtout le vieillissement.
Eh bien, donc, j'en conclus que si l'insolence permet de ne pas vieillir, eh bien, ça veut dire que la Belgique n'est pas vieille. Et que la Belgique, probablement, ne vieillira pas. Ça peut être dans plusieurs sens, donc il faut se méfier. Est-ce que, donc, puisqu'on va parler beaucoup maintenant de la Belgique, est-ce que la Belgique est naturellement insolente ? Nous connaissons bien, vous et moi, ce pays. J'y ai personnellement des attaches profondes, mais malgré tout, nous gardons sur lui un regard extérieur, puisque nous sommes tous les deux Français, ce qui nous rend sans doute, nous oblige à la prudence vis-à-vis de ce pays, nous rend inaptes probablement à juger, puis au fond, pourquoi juger et qu'est-ce qu'on doit juger ? À juger une situation actuelle qui inquiète quand même les Belges, il faut bien le dire, comme si c'était un peu de leur chair qui se délitait, comme si même l'esprit surréaliste qui relie un peu les Flamands et les francophones avait perdu tout d'un coup son pouvoir catalyseur. Comme si on commençait à douter que la fameuse émission de la RTBF du 13 décembre 2006, qui est un modèle d'insolence et dont on parle d'ailleurs dans le numéro 5 de Rive Neuf Continent, comme si cette émission de la RTBF, finalement, n'était pas forcément une fiction. Je persiste pour ma part à penser que la Belgique ne franchira pas la frontière de son vieux rêve, ce qu'on pourrait appeler son vieux rêve, derrière laquelle le réel l'attend, en quelque sorte. Parce qu'elle aime trop le surréel, le vrai surréel. Elle perdrait son insolence naturelle. Alors, question insolente, Alain Sancerny, croyez-vous en la Belgique ?
Alors évidemment, je crois en la Belgique. Mais la Belgique est un effet. Le début du Burois, c'est la scène se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Et je crois que dans la Belgique, comme cette image de la Pologne est une sorte de trou d'être, et que la réalité de la Belgique et sa créativité vient précisément de cette absence de définition. C'est un élément composite. La Belgique est quelque chose d'improbable. Je dis aussi quelque part, je souhaite de la chance à mes meilleurs amis, à mes amis. Mais la Belgique a créé les conditions de l'improbable. Et je crois que ce qui fait la richesse de la Belgique est cette compensation par la fiction, par le fictionnaire, par le surréel, et cet excès de créativité vient justement de cette improbabilité de la Belgique. Je ne dis pas que la Belgique évidemment n'existe pas, je dis que peut-être que le mal de la Belgique vient de ce qu'on vit dans une époque où il faut tout nommer toutes les choses, et qu'il vaudrait mieux laisser la Belgique dans son euphémisme, dans l'absence d'intention justement. Je crois que si on ne dit pas que la Belgique ou si on ne désigne pas les éléments qui composent la Belgique, on laisse à la Belgique la chance d'exister. Donc c'est une sorte de suspension, d'installation. Je crois dans la Belgique, mais pas nécessairement dans la Belgique politique qu'on va désigner. Je pense que ce sont les nouvelles formes de langage politique qui veulent désigner des choses trop précises et qui peut-être font beaucoup de mal à l'esprit belge. Je crois qu'il y a des choses dont on ferait mieux de ne pas parler, et les choses iraient très très bien toutes seules.
Eh bien, Alain Sancerny, si vous voulez bien, maintenant nous allons observer une petite pause, et nous allons reprendre dans quelques instants. Bien, Alain Sancerny, reprenons cet entretien et passons, si vous le voulez bien, maintenant, non plus à la Belgique, mais à la riche Belgique. La riche Belgique, c'est le titre, donc, de ce cahier central du numéro 5 de Rive Neuf Continent. Vous avez donc placé la riche Belgique au cœur de l'insolence. Et moi, je dirais que finalement, ce cahier belge semble venir un peu à point nommé, presque pour offrir aux Belges un morceau d'eux-mêmes. Et je dis bien un morceau seulement, parce qu'il est probable que certains d'entre eux, parmi les Belges, ne s'y reconnaissent pas. C'est pas évident. Les Flamands, par exemple, n'y reconnaîtront pas leur langue. Et pourtant, toute cette langue qui se... Cette langue du cahier belge, elle est quand même un peu la leur dans l'esprit. Certains Belges, peut-être aussi, ne partageront pas forcément le choix, qui est un choix subjectif et même déjanté, selon la Libre Belgique, un article récent dans la Libre Belgique, le choix subjectif et déjanté de Luc Rémy, qui est celui qui a rassemblé les auteurs qui sont réunis dans ce cahier belge. Et pourtant, là encore, ce choix est un peu le leur aussi, peut-être à leur insu. Et il est le leur parce qu'il est profondément belge, parce qu'il respire les mânes de Cobra. Le mouvement, autrefois lancé par Dautremont, les mânes aussi de Fantomas, la revue qui s'en est inspirée, lancée notamment par Joseph Noiret, qui est l'un des poètes qui figure dans ce cahier belge. Est-ce que j'ai raison de penser qu'une telle référence... Celle d'une attitude intellectuelle hors norme, c'est moins qu'on puisse dire. La revue Fantomas, je le rappelle, se définissait elle-même comme, et là je cite, ça vaut la peine, une revuette plus ou moins anonyme et anti-tout avec bouquet garni de pataphysique, engueulade, coup de pied occulte, strictement métaphorique. Se peut-il donc qu'une telle attitude intellectuelle puisse transcender les clivages culturels d'un pays, y compris chez ceux qui n'y adhèrent pas, pour illustrer malgré tout une identité commune qui est déjà si complexe en elle-même? Autrement dit, un choix aussi subjectif peut-il servir quand même de catalyseur? Ou alors est-ce qu'il aurait mieux valu finalement, comme peut-être certains peuvent le penser, s'en tenir à une anthologie embrassant l'ensemble des courants de pensée qui animent aujourd'hui la Belgique? Je pense pas, mais bon, on peut te poser la question. Et en répondant à cette question, Alain Sancerny, ne manquez pas, je vous prie, de nous rappeler également brièvement la genèse et l'histoire de Cobra et de Fantomas, parce que je crois que c'est quand même important.
Bien sûr, alors je vais commencer peut-être par ce dernier point, puisque, comme vous l'avez remarqué, les auteurs qui composent Joseph Noiret et Picré, etc., les auteurs qui composent ce cahier, ont frôlé ou viennent du mouvement Cobra et de la revue Fantomas, pour la plupart. Et puis nous verrons si c'est significatif et comment. Le mouvement Cobra a été créé en 1948, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Alors vous avez parlé de clivage de langue, ça montre bien que ce mouvement est internationaliste. C'est un mouvement qui réunit des langues, des cultures différentes, qui s'est inspiré des arts primitifs, du surréalisme évidemment, voire du dadaïsme, et qui a réuni, qui a mélangé un peu tous les genres, qui a fait quelque chose d'improbable. Je reviens sur la notion d'improbabilité, comme la Belgique est improbable et comme l'art, cet art expressionniste, cet art matérialiste, cet art non pas matérialiste, cet art brut, cet art qui vient du surréalisme, cet art du collage, de la rencontre improbable, est tout à fait représentatif de ce que peut être la culture et la fiction belge, de ce que peut être l'imaginaire d'un pays comme la Belgique, qui n'est pas un pays classique, qui n'a pas un imaginaire classique comme la France a pu l'avoir. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui reste très représentatif. Et ensuite, la revue, bon, le mouvement Cobra s'est éteint en 1951, mais ça a été repris, et on retrouve Joseph Noiret dans les deux. Ça a été repris ensuite par les frères Picré, par Joseph Noiret, par Christian Dautremont, par Marcel Avrenne. Ça a été repris par la revue Fantomas, qui elle-même s'inspire du dadaïsme, du surréalisme, mais qui mélange tous les genres, qui simplement ce sont des gens qui sont séparés du surréalisme français quand le surréalisme français a adhéré, quand les surréalistes ont adhéré au réalisme socialiste, et quand c'est devenu une sorte de secte ou d'école un peu trop franco-française.
Le surréalisme français, il est quand même très parisien.
Voilà, c'est le surréalisme. En tout cas, il est devenu, il est né du dadaïsme, oui, après la guerre, mais après la Seconde Guerre, autour de Breton, Breton l'a organisé à une sorte d'église, on appelait, Breton était le pape du surréalisme, et avec des exclusions, des intransigences, donc ça, c'est les Belges, ce sont plutôt des libertaires.
Chanson appelait André Breton le général Breton.
Voilà, le général Breton, simplement c'était un général avec peu de troupes et peu de divisions. C'est, enfin, beaucoup de divisions internes, mais peu de divisions armées. Voilà. Donc, on a fait le choix. Notre choix s'est porté. Le choix de la revue s'est porté sur ce qui incarne le mieux cette installation qu'est la Belgique, avec ce rassemblement graphique, ce mélange d'écriture, de musique, de peinture, de collage, sur ce mouvement, autour de Fantomas, a animé tout de même toute la période de toute la littérature belge jusqu'aux années 80, de 1953, je crois, à 1980. La rue Fantomas a brassé une bonne partie de l'imaginaire belge. Alors maintenant, sur l'aspect partial du choix, bien entendu que le choix est totalement et volontairement partial. Parce que une revue est une revue, rien n'aurait été plus ennuyeux à notre avis que de faire une anthologie avec tous les mouvements représentés, quelque chose de scolaire, une sorte de Lagarde et Michard, où on aurait rendu compte de tout le monde d'une façon égale. Ce n'est pas l'objet d'une revue. Si vous voulez, ce que nous avons voulu tracer, c'est une diagonale dans l'imaginaire belge sur des gens qui ont compté, qui comptent toujours, et montrer un morceau réel de ce qui se passe en Belgique, et donc nécessairement subjectif et partial, car l'art subjectif est c'est comme si vous voulez, en visitant l'Égypte, on ne voulait voir que les musées. Notre idée, nous, c'est de rendre compte de ce qui se passe dans la vie. C'est une rencontre avec la Belgique à travers une personne, et on ne pouvait pas demander à cette personne d'être partout, d'être universelle, d'être également répartie sur toute la Belgique. Donc c'est volontairement que nous avons préféré dire voilà une image de la Belgique, voilà une expérience de la Belgique. Maintenant, pour les autres, tout le monde peut aller découvrir la Belgique où elle est. Et c'était mieux de le faire d'une façon résolument partial que d'essayer de compenser par des petites ruses en disant mais vous savez il y a aussi d'autres auteurs belges classiques différents, ça aurait été illisible, ça aurait été ennuyeux et illisible à notre avis. Nous préférons dire voilà quelque chose qui est important, et puis après vous visiterez les autres monuments de la littérature, de la culture belge comme vous le souhaiterez. Et la revue, je le précise, reste ouverte à tous les auteurs belges, de toute tendance, de tout genre qu'ils soient. Mais il vaut mieux montrer une image forte qu'une image affaiblie, anthropique, et fausse, et finalement fausse, puisque la totalité est toujours fausse, évidemment, dans l'expérience vécue.
Mais en plus, ce choix, donc, qui est le choix d'un homme, effectivement, de Luc Rémy, en même temps, c'est le choix d'un esprit qui est un esprit collectif. Et là, je voudrais insister là-dessus, parce que finalement, l'esprit qui est à la base de Cobra et de Fantomas, c'est précisément cet esprit collectif. C'était pas du tout une attitude individualiste, même l'antithèse de l'attitude individualiste. Et peut-être est-ce que précisément la Belgique actuellement aurait intérêt à se souvenir, à se nourrir à nouveau de cet esprit collectif qui animait ces gens-là et qui encore une fois représente effectivement une attitude hors norme, mais quand même ça reste du collectif.
Et de l'aventure collective. C'est-à-dire, c'est pas un collectif formel, c'est pas le collectif, justement, du réalisme matérialiste, c'est l'aventure, c'est un collectif qui s'organise autour d'une aventure, et d'une aventure éphémère, mais qui d'une dynamique. Et nous avons bien vérifié avec Luc Rémy, nous avons demandé à Luc Rémy de faire en sorte que tous les écrivains qui sont dans ce numéro se connaissent et s'acceptent. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de collectivité, de solidarité, de cohérence, indépendamment de la qualité des textes. De solidarité. Indépendamment, c'est une revue, nous n'avons pas cherché non plus les textes les plus parfaits, nous avons cherché quelque chose qui soit vrai.
Et en plus, alors, autre caractéristique de ces mouvements de Cobra et des Fantomas qui me paraît avoir énormément d'importance en l'occurrence, que vous avez d'ailleurs déjà souligné, c'est l'anti-spécialisation, je veux dire par là que tous les arts sont là. Il n'y a pas d'un côté les écrivains, les poètes, les musiciens, les peintres, etc., etc. Tous sont ensemble et l'esprit collectif, c'est aussi un esprit qui rassemble des disciplines artistiques et littéraires qui en soi sont différentes. Et ça, c'est fondamental. Pour parler, par exemple, de Joseph Noiret. Joseph Noiret est un poète qui a beaucoup travaillé en osmose avec Serge Van Der Kam, l'un des maîtres du mouvement Cobra, qui était photographe au départ, qui est devenu peintre et sculpteur par la suite. Et donc, il y a une osmose entre ces deux créateurs qui a marqué également le mouvement Cobra et par la suite Fantomas. Et d'ailleurs, j'ai noté avec, je dois dire personnellement, beaucoup de plaisir que le numéro 5 de Rive-Neuf Continent faisait maintenant la part belle à l'art plastique. Puisque la couverture elle-même fait dans la folie, oui. La nef des fous.
Oui.
Et en plus, le cahier belge est nourri par un certain nombre de je ne dis pas d'illustrations, parce que ce ne sont pas des illustrations, ce sont des expressions d'accompagnement, en quelque sorte, de la poésie.
Oui, ce sont des accompagnements voulus par les auteurs et qui correspondent à ce qu'ont voulu les auteurs. La Belgique, et Bruxelles en particulier, reste une ville, certainement Liège que je connais peu, la Belgique reste un pays où le mélange des arts est plus facile et des genres est plus facile qu'à Paris, par exemple, où les choses sont beaucoup plus cloisonnées, où les poètes ont des lieux très très dédiés, très séparés, alors que la Belgique, il existe des endroits où on trouve encore un mélange entre les différents artistes. Je crois que ça illustre bien ce qu'est la Belgique, et c'est ce que nous avons voulu. Et nous avons illustré la couverture de Rive-Neuf Continent, de La Nef des Fous, de Durer, qui illustre bien ce qu'est la littérature, ce qu'est l'aventure littéraire, la solidarité littéraire et en même temps la folie littéraire.
Très bien, c'est l'insolence.
L'insolence.
C'est l'insolence naturelle. Alors, pour terminer cet entretien, je vous propose de faire maintenant un petit peu de lecture. Et peut-être pour commencer, et pour illustrer un peu la démarche de Cobra au départ, et notamment la démarche de Christian d'Autremont, je vous proposerais peut-être de lire un petit passage d'un livre écrit par Christian d'Autremont, qui a été publié en 1980, mais qui reflète en fait des textes qui publie des textes qui datent, je crois, celui-là des années 60, je ne sais plus très bien, je crois des années 60 à peu près, 68 même. Et donc, je trouve que c'est un texte court, mais qui permet de bien situer quelle était la démarche profonde de Christian d'Autremont. Est-ce que vous pouvez nous lire quelques passages, Alain Sanson ?
Avec plaisir. Donc, passage de Trace. Tout jeune, je m'aperçois que la nature, quelquefois, écrit. Je lis, par exemple, les lettres que des herbes forment au cri du vent. Cette découverte me saisit, je vais commencer à rédiger un anticlassique traité de sémantique. Et j'examinerai dans un de ces chapitres quelles sont les relations des mots et des matières, par quoi, en quoi ils sont écrits. Dans nos peintures mots, et dans ma découverte orientale-occidentale, il s'agit de montrer l'écriture telle qu'elle est, créatrice de formes matérielles, qui déborde plastiquement la signification du texte. Nous allons ainsi plus loin et plus près que les surréalistes qui, dans l'écriture automatique, avaient considéré le texte sans l'écriture et que les fabricants de fausses écritures sans texte, peut-être intéressantes, mais abusivement présentées, comme écriture.
Petit clin d'œil à la fin.
Petit clin d'œil à la fin, il m'arrive, c'est la conclusion de cette préface, il m'arrive donc d'avoir le sentiment, quand je trace un logogramme, d'être un lapon en traîneau rapide sur la page blanche et de saluer la nature comme au passage par la forme même de mon cri ou de mon chant ou des deux tout ensemble. En tout cas, si la Laponie n'existait pas, je ne ferais pas de logogramme, je ne ferais rien du tout. 1968,
voilà. Alors, pour terminer cette fois-ci notre entretien, je vous propose également une petite lecture de quelques poèmes de Joseph Noiret. Joseph Noiret, donc, qui était un membre actif de Cobra dès le départ, qui est également l'un des fondateurs de la revue Fantomas, donc il était vraiment de tous ces parcours-là. Et je voudrais vous lire deux ou trois petits poèmes qui sont dans ce numéro 5, qui figurent dans ce numéro 5 de Rive-Neuf Continent et qui, à mon avis, exprime bien tout cet esprit dont nous avons parlé. Femme nuage de point typographique, danseuse de pointe aussi aiguë qu'un cri, fleur à mots ouverts, Son œil s'exerce aux légèretés de la lumière. Dans son pollen, elle mène une existence d'insecte. Repliée, solitaire, souterraine, en elle, l'infini se met en route vers l'autre bord. Éphémère, elle se cherche un alibi de jours et de nuits. Elle manie le piège du temps, elle a sa durée pour elle. Douce, mes mains s'enivrent à perpétuer ses formes contre l'informe qui menace. Et on termine par un dernier petit poème, celui-ci. Au commencement, noirceur sonore, devenu poème, qui sans elle végéterait dans la caverne. Femme, une fois pour toutes, nocturne, sans phrase. Merci Alain Sancerny de ce très beau moment passé ensemble.
Merci
en
beaucoup.
Compagnie de la Belgique. Vive la Belgique.
Vive la Belgique. Avec plaisir.
Puisque dans ce numéro 5 de la revue Rive-Neuve Continent, l'académicien René de Obaldia de l'Académie française a rédigé un court billet à propos de l'insolence, Canal Académie vous en propose la lecture, une lecture assurée par le comédien Fernand Guillot.
Il est noté dans Main Dictionnaire que c'est principalement par des invectives orales que certains hommes font preuve d'insolence envers leurs coréligionnaires. Parole brutale ab iro. Mais qui, aujourd'hui, aurait le front de vous traiter de laquais, de fat, de butor, pignouf, polichinelle, cloporte, grossier personnage, expression que ma vénérable grand-mère Honorine avait lancée à la tête de son voisin de panier, rustre, faquin, rastaquaire, malotru, empuse. Injurier son prochain, c'est le reconnaître. Actuellement, il existe une autre forme d'insolence bien plus redoutable à mes yeux, la négation de l'autre. Un nombre de plus en plus élevé de nos concitoyens ne circulent plus dans la rue ou les transports en commun qu'avec des écouteurs aux oreilles ou encore se trouvent rivés, englués à leur téléphone mobile. Autour d'eux, le désert. Leurs semblables, leurs frères n'existent pas. Aucun regard, aucun sourire, aucune insulte ne lui est accordée. J'entends encore Mauroy. L'insolence de cette génération passe les bornes de la naissance. Le cher homme, le cher académicien. Au fait, ai-je jamais entendu sous la coupole des confrères échanger entre eux des propos blessants? Quel immortel croisant un autre immortel qui l'aurait indisposé, soit par ses écrits, un article incendiaire sur son dernier roman, soit par ses idées politiques, se risquerait à le traiter de vieille canaille. Fi ! Que nenni ! Que point ! Au sein de notre compagnie règne une exquise urbanité. Les esprits les plus étrangers se concilient. Aussi, par ces temps de grande confusion, de laxisme galopant, n'est-ce point une autre forme d'insolence que de vouloir conserver les valeurs traditionnelles, de vouloir préserver les richesses de notre langue? Notre vocabulaire s'amenuise, s'atrophie, les mots sont hachés, coupés en deux, en quatre, parfois nous parvenons à la limite de l'entendement. Si nous n'y prenons garde, avant la fin du siècle, serons-nous réduits pour nous exprimer à pousser quelques sons, plus ou moins articulés, rejoignant en cela les anthropoïdes? Oui, il y a dans ce combat, sinon de l'insolence, un véritable défi. Si, pour le philosophe des Studs de Tracy, 1754-1836, l'insolent est un triste sire qui ne sait refouler ses humeurs. Pour la Bruyère, un fat outré. Nous pouvons lire dans les proverbes de Salomon, « Tout homme insolent est une abomination au Seigneur. » Mais j'y songe. Le comble de l'insolence, ne serait-ce point de se croire immortel.
René de Obalia de l'Académie française, un texte « L'insolence » paru dans le numéro 5 de la revue Rive Neuve Continent.